hors les murs.
La maison des écrivains et de la littérature.
Rencontre littéraire au Petit Palais. La poésie pour quoi faire, Antoine Emaze. Un entretien avec Jean-Michel Maulpois, écrivain, professeur à Paris-Ouest.
Bonjour, bienvenue à l'auditorium du Petit Palais pour ce séminaire qui s'intitule « La poésie, pourquoi faire ?». Lorsque Jean-Michel Maulpois a proposé à la Maison des écrivains et de la littérature d'organiser tous les mois ces rencontres, on savait que c'était important. Je crois que maintenant, c'est absolument nécessaire. Merci Jean-Michel, et on n'arrête pas, c'est certain. Voilà, alors aujourd'hui, l'invité de Jean-Michel Maulpois est Antoine Emaze, et je suis heureuse que vous soyez là pour créer en quelque sorte ensemble cette fraternité grise dont il parle si bien.
Merci Sylvie. Alors je reçois aujourd'hui Antoine Emaze à l'occasion d'une double publication, Plaies aux éditions Tarabuste, un livre illustré par des dessins, des encres de Daniel Mescache, et puis un livre que je n'ai pas apporté qui s'appelle Tage, jour en allemand, c'est une édition bilingue, hein, aux éditions de la Forêt.
Édition en Forêt.
En Forêt. Alors entre ces deux livres, il y a un rapport, un lien qui est, je dirais, de douleur, puisque Tage dévide entre journal et récit en vers, un ruban, je dirais, de paroles grises, pour reprendre ce qualificatif qui revient souvent dans tes textes, hein, un ruban de paroles grises dont le « on » est, comme presque toujours également dans tes textes, le sujet, on y reviendra, et qui accompagne les derniers jours d'un être proche, d'un être cher, très cher, la mère, avec sa fatigue, avec son usure, avec sa vieillesse, sa maladie, ce que tu appelles aussi sa patience à souffrir, au bout d'une longue vie corsetée, une longue vie que tu définis comme sans trace aucune. C'est comme la cendre de vivre, la cendre du temps, la grisaille et l'atonie de l'existence que recueille ce mince filet de poésie plus ou moins narrative, hein, qui est le tien. Une sensibilité extrême au tempo des jours, au souffle, aux traces. Une perception, je dirais, une sensation de l'exister saisie au plus près qui importe ici. L'écriture étant toute focalisée. Et je m'attarde sur ce livre précisément parce qu'il est significatif d'une démarche qui le déborde, hein, qui est la tienne plus largement. L'écriture est toute focalisée sur la situation existentielle, sur ce qu'on pourrait appeler la présence-absence au monde, le là marqué par une espèce d'éloignement intérieur, un assourdissement, une atonie. Et l'autre livre, Plaies, que j'ai là, qui réunit, lui, 28 poèmes, simplement numérotés, accompagnés donc par des encres de Jamel Mescache, paraît d'une certaine manière faire le deuil, travailler le deuil. Enfin, ces 28 poèmes viennent après ou avec le deuil. C'est ainsi que je les ai lus, en tout cas. Ils font ce travail, puisque la plaie ici évoquée, c'est celle de la mort, un bloc d'angoisse, comme il est dit au début, un bloc d'ardoise, pardon, tombé sur le jour et les yeux. Et une blessure que tout à la fois l'écriture vient recreuser et suturer. Je pensais, en te lisant, à ce mot de Jacques Dupin qui dit quelque part « la poésie n'apaise pas ». L'écriture poétique, ou la poésie, je ne sais plus, ne comble pas, mais approfonde, exaspère, hein, c'est la formule, exaspère, je crois. L'écriture ne comble pas, mais exaspère toujours davantage le manque et le tourment qui la suscite. En ce qui te concerne, tu as une phrase un peu voisine, mais sensiblement différente. Tu dis « écrire ne soigne ni n'avive, accompagne seulement ». Écrire ne soigne ni navive. Donc, on n'est pas dans l'aggravation, on n'est pas dans la consolation, on est dans l'accompagnement. Et ce travail n'est pas seulement un travail d'accompagnement dans plaie, puisqu'il y a effort aussi pour réduire cette plaie, pour la suturer d'une certaine manière. L'itinéraire que m'a semblé tracer ce livre va de la blessure initiale, le mot est prononcé tout au début, à la page 9, vers la cicatrice dont il est question plus loin, hein, et en passant évidemment par la plaie. Et le « on », ce « on » qui est le sujet de tes poèmes, et qui là se déplace à tâtons en refusant tout à la fois, je dirais, de geindre et de s'engluer, ce « on perçoit qu'il cherche une issue. Et c'est important, je crois, pour d'emblée caractériser ou définir ton travail, enfin pour le situer, c'est ce refus du nihilisme, cette quête de la lucidité qui est si importante dans tes poèmes, et fait du poète, tel que tu l'as défini, cette tâche, un travailleur de la lucidité. Voilà ce que je voulais dire en introduction. J'ai d'autres idées, mais je vais peut-être laisser, à moins que tu veuilles d'abord réagir sur cette lecture que j'ai faite rapidement, comme cela, sur le vif de tes deux derniers livres. Un mot d'abord quand même pour indiquer la présence de Camille Bonneau, qui est une étudiante de Nanterre, qui prépare son mémoire de master sur Antoine Aimaz.
Il y a beaucoup de choses que tu as dites qui sont justes, il faudrait les reprendre une par une pour que j'arrive à répondre. Sinon, c'est trop global, si tu veux, pour que je te réponde comme ça. Ce que je dis, c'est le point peut-être que je pourrais dire pour Play, c'est qu'effectivement, c'est un livre que je considère comme optimiste, c'est-à-dire qui refuse d'être écrasé et d'aller vers le rien. Ça, c'est certain. On part du rien pour aller vers quelque chose et construire autre chose. Voilà, c'est ça que je pourrais dire. Cet aspect-là, il est effectivement important, pas seulement pour Play, mais particulièrement pour Play.
Camille ?
Je ne sais pas si on m'entend. On va se compléter, je pense, puisque ma présentation sera un petit peu plus générale. Je me suis demandé ce qu'on pouvait dire sur votre poésie, Antoine Aimaz, tant votre écriture semble muette, comme une sorte de petite musique de tête, je crois que c'est une expression que vous utilisez. À la limite du silence et toujours prête à sombrer dans l'aphasie, mais toujours prête aussi à se relever de ses décombres. Votre poésie est marquée par une vive conscience de la perte, cette conscience que tout va disparaître, que nous ne pouvons rien retenir du monde et de ses objets, que tout est irrémédiablement perdu. C'est dans cette perspective que vous vous tournez vers le dehors, votre poésie est pour une large part une poésie de l'œil, avec la contemplation du jardin, du ciel, de la glycine. Il s'agit pour vous de laisser aller l'œil vers le dehors, de lui faire prendre un bain de réel, pour constater, si l'on peut dire, l'engloutissement du dehors sous les conditions mêmes du dehors. Dans l'obscurité ou dans la lumière, l'encore à voir qui reste ne semble parfois plus visible. Se tourner vers le dehors, pour vous, c'est se tourner vers le temps et prendre conscience du réel sous l'angle du temps qui l'agite et l'absorbe. Il s'agirait pour vous de retenir un peu des choses, quelques grains du réel. Dans une expérience intime d'un quotidien banal qui articule l'évidence muette de la présence des choses à leur opacité irréductible contre laquelle nous nous heurtons, à cette opacité qui est peut-être ce mystérieux être périssable du monde. Du côté du dedans, votre poésie est soucieuse du prosaïsme de l'existence humaine, tissée de fatigue, menacée de vieillesse, et prise elle aussi dans le temps et dans ce qu'on pourrait appeler la sombre coulée que creuse la mémoire. Ce peu qu'est l'humain est lui aussi en voie d'être perdu, le corps est en ruine, vous le comparez souvent à la poussière, au sable ou à la boue. La parole qui se déploie dans vos recueils est ainsi une parole précaire, faite de mots brefs, une parole au bord du silence. Vous dites dans Cambouis, c'est page 203, vous avez une petite réflexion sur le devenir de la poésie que j'aime beaucoup et que je voudrais citer. Il n'y a pas de fin envisageable de la poésie, parce qu'il ne peut y avoir de fin du chant, même déchanté, déjanté, hors chant ou chant de mort. Quand il n'y aura plus de chant, il n'y aura pas plus de poète que d'homme, et peut-être que le dernier homme sera celui-là qui chante pour plus personne, mais pour toutes les ombres. Donc déchanté, déjanté, on peut dire que votre poésie l'est, qui se tisse autant dans les mots que dans les silences. Votre parole poétique est une parole dépouillée, dénudée, délavée, qui parle au ras de la condition humaine. Il s'agit moins de requalifier le monde que de l'accueillir tel quel, dans sa nudité, dans la secousse qui se produit à l'intérieur par l'émotion que suscite le réel. Il s'agit, je crois, de voir comment la surface des choses vient se coller à nos gestes et ébranler nos affects. Je pense donc qu'on peut retenir deux mots-clés qui permettent d'entrer dans votre œuvre, pour ceux qui la connaîtraient mal. C'est d'un côté l'émotion, et puis son envers, l'empêchement. L'émotion, c'est une notion que vous reprenez, je crois, dans la poétique de Reverdy, que vous avez lue et qui vous tient beaucoup à cœur. L'émotion, donc, permet de nouer le dehors et le dedans, et l'écriture est en constante tension entre le dire et le vivre. C'est-à-dire que le réel, finalement, serait votre seul credo. Il s'agit de se heurter à la réalité rugueuse de Rimbaud ou encore à la saveur du réel de Reverdy, qui reste à l'horizon du poème. L'émotion vient ensuite ricocher sur la sensibilité du lecteur et s'adresse directement à son système nerveux. Il s'agit pour vous de remuer la langue et de remuer du même coup la vie. Mais le pendant de l'émotion, c'est donc cette question de l'empêchement. Il me semble que c'est aussi une de vos originalités poétiques, de ne pas vous accommoder de ce qui bloque, mais d'en faire l'objet même de votre poésie et son origine. Il y a une double butée dans votre poésie, celle du regard étroit et celle du réel qui se soustrait au regard. Et c'est donc, je crois, dans l'exploration de ce double point limite que s'inscrit tout votre travail poétique. C'est là que la langue est mise à mal et c'est là que la langue doit se réinventer. Donc on peut peut-être commencer par là, non ? Il me semble que c'est la porte d'entrée la plus évidente de votre travail, cette dualité de l'émotion qui à la fois déconstruit, qui ruine, on pourrait faire de vous le poète de l'empêchement, mais qui est aussi bien créé et qui suppose l'invention d'une langue à hauteur de la condition humaine.
C'est la même réaction qu'avec Jean-Michel. Trop de choses. Alors, sur émotion-empêchement, oui, je suis d'accord. Sur empêchement, surtout. Je crois qu'on ne va jamais au bout des choses, c'est-à-dire même d'écrire. Le premier livre que j'ai fait s'appelait En deçà et signalait ça. C'est-à-dire que il n'y a pas de poème qui finisse la poésie, quoi. On est toujours en deçà de ce qu'il faudrait faire, ou de ce qui serait souhaitable ou ce qui serait exact. Oui, empêchement. D'où les images ou les métaphores ou le jeu qui m'est habituel, que ce soit le mur, le sable, la boue, enfin tout un tas de matières qui servent à signaler ce blocage. Hein. Donc ça, je suis tout à fait d'accord. Mais en même temps, il y a un empêchement qui est refusé. C'est-à-dire, ça c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a toujours le refus, et en ce sens-là, je ne suis pas béquétien. Je ne mets pas cap au pire. Je ne fais pas ça. Il y a toujours une capacité de résistance, d'exister encore, d'exister malgré, qui doit être dite, quoi. Hein, on n'est pas écrasé par le réel tel qu'il est, fut-il sarkozyste. On a une marge. Elle est peut-être minime, mais on a une marge. Et cette marge-là, la poésie l'a dit, enfin, l'affirme. Même si elle est, même si, bon, mes poèmes sont très sombres, enfin, ou très noirs, on me le reproche assez souvent. Ça, oui, la réalité est, et on ne sort pas de cette réalité-là. Par contre, on peut continuer à lutter pour essayer de la bouger, ne serait-ce que pour avoir un peu d'air, quoi. Et émotion au cœur, oui, ça c'est sûr. Je prends souvent l'image du tambour, enfin elle est récurrente dans le travail. Je vois l'être humain comme une peau qui est tendue entre, disons, le dedans et le dehors, dont vous avez parlé, c'est très juste, hein, ça. Chez moi, c'est important, cette distinction dedans-dehors. Et la limite, c'est la peau d'un corps. tant qu'il est vivant, qui fait qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur et qui renvoient à la mémoire, à des traumatismes, à des tout ce qui est la mémoire que chacun trimballe. Et puis de l'autre côté, le dehors, qui lui aussi vient frapper sur cette peau-là, qui est comme une peau de tambour. Hein. Et le poème, bah, c'est ce qui reste, c'est ce roulement de tambour qui reste. Ça peut être un tambour, il ne faut pas imaginer grosse caisse. Hein. C'est plutôt un tambour, tambourin, oui, caisse claire. Voilà.
Vous citez Beckett, du coup ça m'évite d'avoir à le citer moi-même. J'ai toujours trouvé qu'il y avait quand même une certaine parenté entre vos textes et celles de Beckett, ne serait-ce que par une phrase de Beckett qui, un jour, dans un grand élan de générosité, a décrit ce que pour lui était la thématique de tout son travail, en disant « va et vient dans l'ombre, entre l'ombre du dehors et l'ombre du dedans, entre l'ombre, entre le moi insaisissable et le non-moi insaisissable ». Il me semble quand même que bon, il y a aussi un espoir beckettien, et je crois que vous êtes vraiment dans cette logique de ce va-et-vient entre le dedans et le dehors. On a l'impression, en vous lisant parfois, d'avoir affaire à ce qu'on pourrait appeler un être écarté, qui n'est ni vraiment dedans, ni vraiment dehors, qui serait dans un mouvement permanent, à la fois vers l'un, vers l'autre, et puis dans la tension entre les deux. Est-ce que alors la poésie, ça serait quelque chose comme arriver à fabriquer peut-être une bande de peau entre dedans et dehors, qu'il s'agirait de repousser dans un sens ou dans l'autre, fabriquer une sorte d'espace en tension permanente où il s'agirait de mieux respirer.
Question trop longue. La citation de Beckett était très belle. Il y a de l'ombre dedans et de l'ombre dehors. C'est là où on rejoint le refus du nihilisme dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, il faut quand même que le poème dise que l'homme peut être debout, la personne peut être debout, voilà, quoi qu'il arrive, que ce soit du dedans ou du dehors. Parce que je vois toujours ces éléments-là comme des éléments agressifs, des éléments qui attaquent, pas des éléments apaisants, sauf pour le dehors. L'aspect nature, le jardin, sauf ça. Hein. Mais sinon, tout le reste est ressenti comme agressif, ou potentiellement agressif. Donc, c'est pas simple de vivre avec soi, c'est pas simple de vivre avec les autres. L'enfer, c'est pas les autres, c'est les autres et soi. C'est tout ça qui est pas facile. Donc, le poème dit qu'il est quand même possible d'exister, et il est quand même possible de réaliser quelque chose. Ben, dans une situation qui est pas simple. Voilà, je dirais ça. Je ne sais pas si ça répond.
Oui, j'ai envie de parler à votre sujet, je pense que la formule est peut-être un peu maladroite, mais d'un lyrisme des vertèbres. On ne peut pas affirmer que vous êtes lyrique, parce que vous n'êtes pas dans le chant, vous n'êtes pas dans l'espoir, enfin, vous l'êtes un petit peu, en tout cas pas dans l'envol, mais un lyrisme qui serait... Cette petite musique, une musique de pauvre, une musique de peu, presque silencieuse, mais qui malgré tout conserve du lyrisme un élan et un mouvement qui remue la langue. Et j'ai envie de l'appeler lyrisme des vertèbres, parce que ce petit lyrisme ne serait peut-être capable de rien d'autre que de faire tenir l'homme debout, justement. Mm-hmm. Le faire tenir droit.
Ah oui, là je vous rejoins tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai toujours bien aimé... la notion là, que tu as avancée là, de lyrisme critique, ça je me sens assez bien dans cette notion-là.
Enfin, ne pas s'installer aux grandes orgues, dis-tu, dans lichen, mm-hmm. plutôt ruisseau ou flaque que fleuve.
Ça c'est très clair. Ce qui ne me va pas, c'est une poésie qui fait illusion. Qu'elle fasse illusion parce qu'elle est une sorte d'apothéose de langue, ou qu'elle soit illusion parce qu'elle pense... qu'elle va en finir avec les grands élans sentimentaux, ou par exemple aussi la louange ou l'espoir démesuré. Hein. Moi, je suis toujours dans quelque chose qui est étroit, qui est petit, qui est réduit, parce que ma vie, elle est comme ça. Donc je parle, moi, à partir de ce que je connais, c'est-à-dire une vie étroite de petit fonctionnaire de province. Voilà, on peut pas. Je sors pas de là. Hein. Mais je vis dedans. C'est une peau étroite, c'est Revers dit qu'ils disaient ça, l'étroite peau. Je crois que nos peaux sont étroites, mais qu'on peut arriver à vivre dedans, quoi. Voilà. Et je dis que la poésie aide à vivre, donne de l'air. Ça, je le dis aussi. Donc, c'est pas une poésie ni nihiliste, ni pessimiste, ni sombre. C'est on fait ce qu'on peut avec la peau qu'on a. C'est aussi bête que ça. Sur ta notion de lyrisme critique, on peut revenir, parce que je suis en vraiment en accord profond avec cette notion-là. Je me sens bien avec cette notion.
Jean-Patrice Courtois a une belle formule dans la postface très éclairante qu'il a donnée à Caisse Claire, ce livre qui est disponible en poche là, dans la collection Point. Il parle de judo immobile. Alors, parce que qui dit lyrisme dit aussi mouvement, ouais. Dit aussi énergie. Et il y a beaucoup d'énergie qui circule dans ton écriture, mais c'est plutôt une énergie frappée, une énergie scandée, une énergie percutante. Un autre critique emploie l'image des grêlons hein, pour parler de ta poétique. Mais c'est la tension, c'est la prise qui importe. C'est le brusque mouvement qui finalement amène une réaction hein, qui est l'élément recherché visiblement dans cette volonté de se tenir, d'insister, de faire face. Tu dis aussi dans Lichen, les mots sont des poux. Dès que possible, redresser l'échine de l'homme plié par la douleur, digne c'est debout. Voilà. Donc il y a toute une poétique de ce qu'on pourrait appeler ce lyrisme restreint, hein, ce lyrisme critique qui est le tien, qui ne cède pas de terrain, qui ne n'abandonne pas le combat, qui ne met pas cap au pire, comme tu le disais tout à l'heure, mais qui en même temps récuse tout ce qui est soufflé, tout ce qui est grandiose ou un peu artificiel finalement dans une sorte d'expansion poétique.
Oui, tout à fait. Là, moi je, en plus, j'ajouterais simplement que je récuse pas ces paroles-là. Je ne leur dénie pas la validité ou autre chose. Hein.
Elles
ne me correspondent pas et ce n'est pas ce que je demande au poème. Voilà tout. C'est pas plus que ça. Mais effectivement, j'évolue dans un monde qui est très étroit, aussi parce que je pense que le commun des mortels vit dans un monde qui est très étroit. Donc moi, je parle pour moi, mais je parle aussi pour le commun des mortels.
Alors c'est là peut-être qu'on pourrait introduire une réflexion sur ce choix que tu as fait du « on ». Du « on » comme étant, bon, qui est le pronom, hein, tu te mets à l'impersonnel, tu parles à l'impersonnel sur... voilà, on pourrait dire le mode impersonnel.
Dans le « on », il y a le jeu. Hein.
Mais, oui, mais alors c'est...
Si tu dis « on va au cinéma », t'es dedans, hein. Tu vas aussi au cinéma.
Tout à fait. Mais tu as une formule que j'ai trouvée très intéressante quand tu dis « le poème se présente comme une sorte de plateforme neutre où je passe du jeu au « on » et le lecteur du « on » au « jeu ». C'est justement pour ne pas empêcher le lecteur de faire ce mouvement du « on » vers le « jeu » que toi-même... tu te mets à l'impersonnel, en considérant, si j'ai bien compris, que le jeu fait d'une certaine manière obstacle et qu'il risque d'empêcher le lecteur, finalement, de s'approprier véritablement ce que tu écris.
Alors on est complètement d'accord, là. On est complètement d'accord. Et c'est en ce sens-là que le lyrisme est critique aussi, hein, tu vois. C'est-à-dire, si tu veux, le refus de mettre en avant le jeu... bon, c'est quelque part mettre en critique le lyrisme au sens,
oui,
au sens traditionnel, si
oui,
tu veux.
Bon, dans la bio,
hein, voilà. Là, il n'y a plus ça du tout. Hein. Il y a vraiment un travail de délavement de l'expérience pour arriver à quelque chose qui est de l'ordre d'une expérience qui est commune, qui est partageable, qui est où le lecteur peut s'inscrire ou se mettre ou retrouver quelque chose qu'il a, lui, dans sa propre vie, vécu, expérimenté, quelquefois dépassé, quelquefois pas dépassé. Enfin bon, tu vois, le boulot, il est vraiment là. Il est d'arriver à proposer quelque chose qui soit... Le poème, pour moi, c'est un... J'aimais bien aussi cette expression-là. Le poème est un lieu commun. C'est quelque chose qui a tout le monde, quoi, qui peut être pris, ou une interface aussi, on pourrait prendre cette métaphore-là, plus technologique, mais quelque chose qui est entre ce qui est moi et ce qui est l'autre. Et c'est la zone du partageable. Qu'est-ce qu'on peut partager d'humain entre nous? Vous êtes tous différents. Bon, bah, qu'est-ce qu'on a en commun? Bah, il doit y avoir des expériences qui sont communes, l'expérience, alors ça peut être de la souffrance, ça peut être du deuil, ça peut être peu importe, mais le poème va essayer de, non pas de conceptualiser, tu vois, pour essayer de, non, c'est pas le schéma du concept, c'est ça, ça va pas vers le concept du tout, mais plutôt vers la sensation, émotion, qu'est-ce qu'on vit finalement, qu'est-ce qu'on vit d'intense, vous et moi. Voilà, et le poème va essayer de saisir ça. Et le donner à revivre à l'autre. Tu vois, l'autre est... je ne sais pas si on prend par exemple l'expérience du deuil, tout un chacun a fait cette expérience-là. Donc le poème ne va pas porter mon deuil comme un deuil exemplaire, comme un deuil... non, il va porter un deuil. Et il va être en appel, en attente de ce que le lecteur, lui, peut apporter comme expérience personnelle qui va moduler. Donc je fais attention à ne jamais personnaliser, particulariser trop.
Oui.
Tu vois ? D'où le passage, si tu veux, enfin passage, le on plutôt que le je, mais beaucoup d'autres choses dans l'écriture qui font que, à la limite, je suis plus reconnaissable dans les poèmes que j'écris. Plaît, par exemple, est un, enfin, à mon avis, un bon exemple. Et ce que j'en ai comme retour, c'est exactement ça. C'est-à-dire que chacun, il lit sa plaie, non pas la mienne, sa plaie. Par contre, la manière dont on s'en est sorti, la manière dont on a cicatrisé ça, peut-être qu'on peut se retrouver dedans. Et c'est aussi pour ça que n'est pas éclairci dans plaie le choc, le traumatisme de départ. On ne sait pas quel est le traumatisme. Mais ce qui est important, c'est pas quel est le traumatisme. En ce sens-là, moi, j'aime pas, tu sais, les gens qui font dans le roman, là, comment ça s'appelle, là, l'égo-fiction. Là,
l'autofiction.
Là. Voilà, j'aime pas ça. La confession, tout ça, c'est pas mon affaire. Ce qui m'intéresse, c'est à partir de là, un traumatisme qu'on peut lire comme on veut, comment est-ce qu'on s'en sort? Comment est-ce qu'on va reconstruire de la vie? Comment est-ce qu'on va se redresser à partir de ça? Le mouvement du livre, c'est celui-là.
Oui.
Tu vois?
C'est pas par hasard si c'est dans un livre, dans une édition plus difficile à trouver, pour partie en langue étrangère, franco-allemande, que le traumatisme est évoqué de façon plus directe et plus intime.
Mmh.
Tu l'as donné en marge, si l'on peut
voilà.
dire.
Hein, celui-là, il est fait. Ça, on pourrait revenir aussi sur livre et recueil. Tu vois, ce sont deux choses différentes vraiment pour moi. Mais c'est un trajet de quelque chose qui t'écrase à une forme de renaissance. Voilà. Et là, il y aurait encore un autre point, si tu veux, qui serait possible de travailler, qui est le côté... qui m'intéresse bien, en quoi est-ce que la poésie peut être narrative? En quoi est-ce qu'il y a du narratif en poésie? Ça, c'est quelque chose...
Oui, tu voudrais dire quelque chose là-dessus? Ça m'intéresse beaucoup parce qu'on a tendance à séparer poésie et récit,
oui, tout à fait.
Hein, voilà. Traditionnellement.
Alors que ça ne m'est pas évident. Ça ne m'est, mais je ne sais pas... et puis en plus, quand je dis poésie, là, ici, je parle bien sûr de ma poésie. Hein. Bien sûr, pas celle des autres. Et les autres, ils fonctionnent autrement. Mais y a, sur cette question-là du narratif, elle m'intéresse vraiment. Alors, je n'ai pas les capacités théoriques, moi, pour le faire, tu vois, pour vraiment établir quelque chose. Hein. Mais elle est vraiment intéressante, parce qu'on a tendance à voir la poésie comme hors récit, sans rapport avec le roman. Alors qu'en fait, moi, je considère que... il y a une part de narratif. Un poème est un trajet. C'est-à-dire il va d'un point à un autre point, d'un état à un autre état. Hein ? Ça me questionne. Alors pour Plaît, c'est encore plus fort, puisque là, tu as quasiment, moi, les retours que j'en ai, c'est des gens qui disent « j'ai lu ça comme un roman ». Et ils ont raison. Ils ont raison. C'est du fragmenté, c'est des poèmes successifs, mais qui effectivement font une ligne qui est narrative, qui t'amène d'un état d'écrasement à un état de renaissance. Donc il y a bien quelque chose de cet ordre-là. Mais alors je ne sais pas comment on pourrait le gérer ou le nommer, ou je ne sais pas ce qu'on pourrait en faire quoi, au niveau théorie, on va dire. Au niveau...
Oui, on reparlera peut-être tout à l'heure cette question de ton de la, le rapport entre l'émotion et la théorie. Bon, peut-être. Camille, vous voulez...
Peut-être simplement sur cette question du temps, peut-être que le point commun entre la poésie et le roman, c'est que dans les deux, il y a un déroulé temporel. Enfin, c'est peut-être plus sensible d'emblée, puisque c'est un livre de la blessure et du deuil, donc il y a le trajet que vous évoquez du redressement. Mais même dans les poèmes des autres recueils, dans leur découpage en séquences, il y a une évolution d'une séquence à l'autre, d'une série à l'autre, puisque dans un certain nombre de recueils, vous avez serré vos poèmes. Et puis dans chaque poème, on voit de toute façon se dérouler ce qu'on pourrait peut-être appeler des flux de conscience. Et donc on sent qu'il y a des instants différents qui se succèdent. Même si on n'a pas des étapes narratives vraiment tout à fait visibles, on sent qu'il y a des moments où on bascule d'un état à un autre, même peut-être avec les évocations de la tombée de la nuit, de la tombée du jour. Enfin, c'est des choses qui sont très, très fréquentes chez vous.
Mmh. Oui, c'est juste ce que vous dites, tout à fait. Ce qui change entre, par exemple, jour et plaie, c'est que tous les deux sont dans la durée. Les deux livres, enfin depuis pas mal d'années, mes livres sont toujours dans la durée, hein, soit avec les dates, soit avec. Hein. Ce qui change, c'est que pour plaie, on a une seule force motrice, un seul élément, un seul événement qui est arrivé, qui a tout cassé, qui a amené à écrire le livre. Donc il y a une unité très forte du livre. Alors que pour jour, ou bien soir, ra, ospo, enfin les recueils précédents, on était plus sur... mais on reste sur l'idée du temps, hein, ça vous avez tout à fait raison. On est sur plus une collection de ce qui s'est passé durant une période. C'est-à-dire, par exemple, un an, deux ans, d'habitude c'est à peu près ça. Et ensuite, je rassemble ce qui a été écrit pendant cette période-là, et ça fait un livre. C'est pour ça que je l'appelle un recueil. Hein. Et là, on va avoir des forces, mais qui sont différentes. C'est-à-dire chaque poème est sur sa force autonome. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais. C'est-à-dire, dans Play, il n'y a qu'une seule force qui tient tout le bouquin. Alors que dans les autres recueils, il y a plusieurs forces qui alternent selon les jours. Et c'est ce qui reste de cette période-là. Si je prends Pau, par exemple, sur un an et demi, qu'est-ce qui reste? Il reste peut-être une vingtaine de jours où c'est écrit un poème et où c'est rassemblé dans ce livre-là. Mais on est dans le recueil, quoi. On n'est pas dans le livre, mais on est toujours dans le temps. Hein. Alors c'est vrai que, par exemple, pour Soir Ra Ospo, il y a une construction a posteriori du recueil, histoire de pas simplement laisser simplement un ordre chronologique, j'essaye de rassembler les forces motrices qui vont ensemble. Alors ça peut être le jardin, ça peut être, je sais pas, dans Pau par exemple, ça m'avait amusé parce que j'avais pensé à toi, il y avait une série qui s'appelait, elle s'est appelée Trop à la fin, mais au départ elle s'appelait Limite lyrique. C'est-à-dire une sorte d'essayer de descendre, jusqu'au point où là, non, vraiment, non. Il n'y a plus de lyrisme du tout. Donc, voilà. Mais bon, c'était une série, une des 5-6 séries du livre. Hein?
Il y a un motif qui peut être en compte de cela, c'est celui de la marche, du déplacement. En tout cas, à la page 115 de Play, tu écris ceci, « Ce gravier de mots sur lequel on marche seul ». On l'entend crisser, il rassure, un pas, un autre pas, le même bruit normal de parler. Quand on entend cela, on sait qu'on est en train de revenir, vers quel visage on l'ignore, mais on revient. Alors cette idée d'une marche sur un gravier de mots et qu'on entend crisser, c'est quelque chose qui me paraît bien rendre compte d'abord de cette inscription dans le temps, de ton travail, de sorte de linéarité, hein, comme s'il y avait un journal de conscience là, qui se déroulait de jour en jour. Hein. Mais c'est aussi cette difficulté à avancer. À un autre endroit, tu dis marcher sur une mince pellicule de glace, donc qui semblerait risquer de se rompre à tout moment, comme si le chemin était fragile et d'une certaine façon dangereux. Et puis à un autre moment encore, tu as une autre image dans un autre livre, tu parles d'un lent tracteur qui doit faire son bout de terre. Alors, tu vois, ces images de la locomotion, je dirais à régime variable et à risque variable ou à effort variable, elle est souvent présente. Ajoutons encore que ce motif de la marche, c'est un motif très important dans toute la tradition lyrique, hein, d'une certaine façon. On n'a pas besoin de remonter jusqu'à Orphée pour s'en souvenir. Mais là, je trouve intéressant aussi ce bruit que semble faire la trace même de l'écriture, assimilée à un gravier de mots, les grains qui répondent d'une certaine manière aux pierres, aux murs, aux lichens, aux ardoises, d'autres motifs qui sont là, qui sont un peu de la même famille et qui sont présents dans ton écriture.
Sur marche, ça je suis complètement d'accord avec toi, tu remarqueras simplement que ma marche est toujours lente.
Oui. Hein? Le lent tracteur.
Voilà, on est sur une progression lente. On n'est pas sur l'atteinte directe du but. Je dirais aussi que là, il y a dette vis-à-vis de Dubouchet. Hein? Oui, c'est un grand marcheur aussi. Oui. Et je dirais encore que tu as tout à fait raison. On a une sorte là, de quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais je le dois aussi quelque part à Dubouchet qui avait dit ça sur Overly. C'est un peu compliqué. Mais Dubouchet avait parlé des images invisibles chez Reverdy. Et ça m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire le fait, si tu veux, que marche, par exemple, mais je pourrais prendre d'autres exemples dans mon travail, mais c'est, tu peux le prendre à la fois dans un sens premier, je marche sur du gravier, on marche sur du gravier, et tu peux le prendre dans un sens métaphorique, comme tu l'as fait, c'est-à-dire aussi le développement linéaire du poème, l'avancée, si tu veux, tu vois, tu peux faire les deux. Donc ça m'intéresse bien, c'est-à-dire que la métaphore ou l'image, non pas qu'elle disparaisse, mais qu'elle soit possible, mais qu'elle soit pas du tout obligée. Elle n'est pas du tout présentée comme image. Attention, voilà une image. Voilà le stupéfiant image. Tu vois, c'est pas du tout ça chez moi. Pas du tout. Ça doit se cacher. Enfin, elle doit être opérante, mais en dessous. Et on n'a pas besoin de la faire, de la mettre en, comment dire, sur le devant de la scène. Tu vois ce que je veux dire? Donc en ce sens-là, oui, tout à fait raison.
Tu pourrais lire un petit extrait de...
Lequel?
Comme tu veux. Un petit extrait de Play ou un extrait de...
Oui, le poème d'une mémoire muette. Le corps dans le sable pèse de plus en plus, s'enfonce, lent. Et le sable finit par peser sur le corps et l'enfoncer plus vite. Tête usée à force d'effacement. Langue épaisse, grise, peu fiable pourtant dans les remous. Mémoire muette, miroir vide. Pas simplement l'image déformée ou décolorée ou se diluant lentement. L'absence d'image, dès qu'on force un peu pour revenir. Assez proche, quelques pièces dont on peut encore repartir pour imaginer autour, comme des îlots. Le travail devenant plus difficile au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la pièce demeurée pour un temps visible, on ne sait pourquoi. Plus loin, de tout petits bouts seuls dont on ne voit que la tranche, qui ne disent plus rien. On ne sait même plus s'ils nous appartiennent ou s'ils commencent à se raccorder aux livres, aux autres. Toujours étonné devant des œuvres, des êtres, qui remontent ou descendent le passé comme un cours tranquille, avec des repères clairs, des événements notables. Une ardoise chaque jour effacée par le jour, un mouvement lent d'essuie-glace. Pendant quelque temps restent des traces d'une écriture qui devient de plus en plus transparente et se confond avec ce qui a été écrit après, devenant vite illisible. Nom, acte, date, fondu en épaisseur d'écriture s'enchevêtrant et devenant comme pâte, boule de pâte, bouche pâteuse, radotis de vieux ou de buveur. Mémoire au bout des mots que l'on est certain d'avoir utilisé un jour ou l'autre, mais qui ne traîne aucune image. Seulement ce goût de vieux des mots. Et la mémoire comme une vague musique, un souffle bruissant par le tuyau des mots, bruit de ce qui a été dit, devenu inaudible et sans visage, mais qui revient au passage présent d'un mot, comme une irisation autour, un sillage, une reconnaissance instinctive de langue bizarrement encore vivante. Comme le mot et son nombre porté, guère plus. Une cendre blanche très fine tombe peu à peu, recouvre ce qui a été exposé un temps. Les plus gros blocs émergent encore en dunes de cendres, tas, poussière dans la mémoire, sans espoir devant. Un enfouissement lent de ce qui a été précis ou violent ou souffrant dans le neutre.
Le neutre, le gris, il y avait là encore la présence de l'ardoise et... J'y reviens encore une fois, même si on en a déjà parlé, parce que ce gris est vraiment un élément très important de ta poétique. Les mots du poème, tels qu'on vient de les entendre là, semblent tracés sur une ardoise, c'est-à-dire une écriture grise, comme on la voyait sur ces ardoises qui n'étaient pas magiques, les ardoises de notre enfance, qui étaient véritablement des blocs d'ardoises sur lesquels on ne traçait pas des mots blanc sur noir. Contrairement à ce que disait Mallarmé, l'homme poursuit noir sur blanc, mais là, blanc sur noir, non, c'était gris sur noir, l'ardoise. Et tu écris avec le gris, tu écris avec le gris des jours, tu écris avec le gris des mots. Tu as une phrase dans Lichen qui est très claire à ce sujet. J'écris à partir de ce qu'il y a de banal en moi, ma part de gris, de commun. Parce que cette part seule peut être partagée. Bon, là, on revient sur des idées qu'on a déjà formulées tout à l'heure. Mais écrire avec sa propre part de gris, comme un ardoisier. Et je me disais, en préparant cette rencontre, à plusieurs moments, je me suis dit, tiens, voilà, Antoine est un ardoisier, comme les ardoisiers de Trélazé que tu évoques dans Lichen. Mais oui. Non, c'est très étonnant, ce petit passage... qui est à la page 54 de Lichen, où tu dis ceci: pourquoi me revient maintenant cet ancien appel des ardoisiers de Trélazé à la viande? Il signalait l'arrivée d'un nouveau bloc et l'incapacité pour l'ouvrier à la manœuvrer seul. Chacun des voisins était tenu de donner un coup de main, sachant qu'il serait amené à appeler les autres à l'aide dès qu'il recevrait, lui, un nouveau bloc. Cette solidarité dans le gris, hein, qui nous ramène aussi vers ce que l'on disait tout à l'heure à propos du on. Alors, bon, il y a ça, cette écriture grise, on l'a compris, mais il y a aussi deux autres motifs qui viennent. Tout à l'heure, tu parlais du délavement. Hein, c'est un mot que tu aimes bien. Il revient aussi souvent sous ta plume. Délavé, une écriture délavée, comme un vieux jean. Hein. Mais ça va plus loin. Dans Play, à un moment, il est question du cycle blanc de la machine à laver. Hein. Donc, tu as des métaphores assez inattendues, parfois, le cycle blanc.
J'ai des métaphores grises.
Oui.
C'est des choses qui sont très simples. Tout le monde sait ce que c'est que le cycle blanc de la machine
sûr.
À laver.
Absolument.
Donc, voilà.
Absolument. Le cycle blanc, c'est celui qui chauffe le plus, d'ailleurs.
Ah oui, c'est vrai.
Hein,
oui.
Si je ne me trompe.
Mais c'est celui qui lave le mieux aussi.
C'est celui qui lave le mieux. Sourire triste. Il faudrait pouvoir mettre le corps et la tête en machine à laver, cycle blanc, 90 degrés, Javel. Il va fort, quand même. Hein.
Oui, oui.
Prélavage, vitesse maximum d'essorage.
Tout à fait.
Un programme long pour être un peu tranquille après. Oui. Bon, Mais pourtant, tu ne blanchis pas ta parole. Alors, peut-être un mot justement ici, je fais des courts-circuits que tu me pardonneras, de ta relation à Dubuchet et Reverdy. Tu as écrit un essai sur André Dubuchet. C'est un poète qui compte beaucoup pour toi. Et pourtant, il y a des différences très, très marquantes, notamment sur le plan articulatoire, je dirais, et sur le rapport au blanc, par exemple, entre ton écriture et la sienne. Ton écriture est beaucoup plus adressée aussi que ne l'est la sienne. Tu pourrais en dire un petit mot de ce rapport à Dubuchet ?
Sur Dubuchet, c'est toute une histoire. C'est-à-dire, il y a eu vraiment un impact de cette écriture qui a été telle quand j'avais, je dirais, 20-25 ans, si tu veux, que je n'ai pas pu dépasser. C'est-à-dire que moi, je n'écrivais plus, qui me semblait avoir fini la poésie. Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'avoir cette expérience-là, l'expérience d'un poète qui termine. Il n'y a plus besoin d'aller plus loin que lui, quoi. Voilà. Donc moi, ça m'a complètement bloqué pendant 4-5 ans. Et puis ensuite, tu as eu un détachement, on va dire, progressif. Et ce qui m'a embêté beaucoup avec Dubuchet, et que je n'ai pas retrouvé avec des gens que j'admire aussi beaucoup, comme Ponge ou comme Michaud, ou des poètes comme ça, que j'admire vraiment, hein, parce que j'avais des angles d'attaque ou de critique, si tu veux, où je savais que ça, c'était pas du tout ça pour moi. Par exemple, chez Michaud, moi, je veux bien mettre à la poubelle tout ce qui est les voyages, tu sais, tout ce qui est les proses de voyages de Michaud. Je garde, si tu veux, que les vers, le lyrisme de Michaud, tu vois, je garde que ça. Oui, oui, mais je sais, mais c'est comme ça que je coupe, tu vois. Ou pour Ponge, bon, ça m'intéresse le working process, là, la figue, le bois de pin, le savon, ça m'intéresse comme processus. Au-delà de ça, je trouve que 120 pages pour le savon, c'est trop long. Voilà. Donc, j'avais ma manière de couper dans l'œuvre, et donc je ne pouvais pas admirer tout. Alors que pour Dubuchet, là, c'est beaucoup. On prend bonne foi. C'est pareil, moi j'admire beaucoup ses proses, notamment les proses sur la peinture, je trouve ça un immense prosateur. Par contre les poèmes, j'en retiens rien, sauf le Leur du Seuil, dans le Leur du Seuil de Bonnefoy, c'est un très grand poème. Mais c'est le seul qui l'ait fait comme ça, avec des vers courts, c'est un truc très bizarre, je ne sais pas pourquoi il a écrit ça, mais bon, celui-là, ouais, il tient. Le reste, non. Donc ça m'intéresse, je ne veux pas dire que ce n'est pas bon. Je dis, ça ne m'intéresse pas, ça ne me nourrit pas. Donc j'avais ma façon de trier, si tu veux. Avec Dubuchet, ce n'est pas possible, ça. C'est où on prend, et tout, où on ne prend pas. Mais il n'y a pas de milieu, quoi. Et c'est en ce sens-là qui m'a vraiment bloqué. Et puis ensuite, ça s'est dénoué, je ne sais pas trop comment, avec le temps. Et sans doute aussi la question de... Comment dire ça ? Parce que là, c'est un peu grossier comme façon de formuler. Mais la question d'un rapport au sens, on va dire ça comme ça. Hein, c'est-à-dire qu'on va dire, un poème devrait être, on va dire, lisible par tout le monde, sans prérequis, comme on dit dans mon métier de prof. Sans prérequis. Ça devrait être lisible et saisissable. Alors que pour Dubuchet, il y a quelque chose là qui m'a arrêté quelque part, c'est-à-dire j'avais de quoi lire, mais il était loin d'être évident que ce soit ouvert à tout le monde, tu vois. Et donc là, il y a quelque chose, un aspect, on va dire, j'irais peut-être... Non, pas pour Dubuchet, mais pour ce qui a suivi, si tu veux, peut-être un aspect élitiste qui me va pas, voilà. Tu vois, mais ça a mis beaucoup de temps à se défaire, cette emprise-là. Et je reste, alors par contre, complet accord avec Dubuchet sur ce qui est en question, c'est-à-dire la réalité. Tu vois, nous, on reste, aussi bien Dubuchet que moi, complètement dans la réalité. On n'en sort pas. On ne décolle pas de là. Simplement, lui, ce qu'il se donne comme... comment dire, comme objet... c'est la réalité au sens nature, si tu veux, et nature directe, montagne, soleil, enfin tu vois, et là il est très reverdien en ce sens-là. Hein. Alors que moi, j'intègre tout un tas de choses que lui, il n'aurait pas pris, Je peux intégrer flipper, frigo, bœuf carotte, cocotte minute, tout ça, moi, ça fait partie de la réalité, autant que montagne ou soleil ou neige ou autre chose. Voilà.
Mais... Et de ce point de vue, ton rapport à Guy Vic ?
Ah, Guy Vic, oui. Grand bonhomme aussi. Pff, aïe, aïe. Mais c'est pareil. Il y avait des... Comment dire ? Je pouvais trier. Il y a un bouquin immense de Guy Vic qui s'appelle Parois, qui pour moi est un très, très, très grand livre. Je ne sais pas du tout pourquoi Guy Vic l'a écrit, mais c'est un très grand livre sur l'obstacle. Et vraiment. Par contre, il y a d'autres choses où je considère que Guy Vic est plus, comment est-ce qu'on va dire ça, joueur, travaillant un peu sous contrainte, si tu veux, avec un projet de faire ça. Voilà. Et ça, c'est pas mon truc, ça. Tu vois. Donc, c'est facile avec des auteurs, même de grands auteurs, parce que tous ces auteurs-là, évidemment, que je les respecte et les admire. Mais c'est assez facile de s'en tirer quand tu vois qu'il y a des parts que tu considères comme plus faibles ou moins nourrissantes. Tu vois. Ce qui est embêtant, c'est quand tu es en face de quelque chose où là, tu te dis, non, là, il n'y a pas d'angle mort, il n'y a pas de coin d'ombre, il n'y a pas de... Tu es vraiment devant une œuvre massive qui est là et qui... Et qui te dit, bah, c'est ça ou pas, quoi.
C'est ça ou pas. C'est une formule importante parce que tu l'emploies notamment d'une autre façon, enfin, formulée un peu différemment dans Lichen, quand il dit une parole qui ne tient que parce que c'est elle ou rien.
Ouais.
Elle ou rien. Ouais, ouais. C'est un peu ta définition de la poésie, ça,
oui,
quand même.
Oui, hein, oui, je suis assez d'accord. Parole. Oui, mais c'est pas tiède.
Pour la nécessité.
C'est pas tiède, si oui, tu veux. Oui. C'est, et j'entendais l'autre jour sur Culture... George Wilson, qui était, puisqu'il est mort, il est, bon, qui repassait, et il disait un truc qui m'a vraiment frappé. Il disait, en fait, au début, quand on est jeune, on angoisse. Et à la fin, on est indifférent. Et il prenait comme exemple Beethoven. Et ça m'a semblé très juste. C'est vrai, si tu veux, qu'au début, j'avais très peur. C'est-à-dire, tu avances, tu sais absolument pas si ce que tu fais de neuf peut passer, peut répondre à quelque chose, peut s'adresser à quelqu'un, tu as vraiment peur. Et puis, il arrive après, ou un moment où tu te dis, de toute façon, je m'en fous. J'ai besoin de ça. J'ai besoin que le poème, il existe comme ça. Donc, je m'en fous. Et c'est beaucoup plus simple. Tu vois ? Avec des risques aussi, c'est sûr que dans Pau, si tu veux, quand j'ai mis ma prise de sang, il y a pas mal de copains qui m'ont dit « Mais qu'est-ce que ça fout là ? Ça, c'est pas de la poésie. » Enfin, tu vois, ça... Bon. Mais c'est pas grave, ça. C'est pas grave. Tu absorbes ça facilement, puisque toi, t'as besoin, si tu veux, que ce truc-là, il soit là. Histoire de montrer qu'il y a effectivement une limite lyrique, de l'infralyrique, ou du... On descendra pas en dessous de ça, quoi.
Ce qui reste... Cette notion de reste aussi est importante. On aurait pu évoquer là aussi ce qui tient et ce qui reste. Mmh.
C'est pareil. C'est les deux, ce qui tient et ce qui reste.
Alors pour ceux qui
les
tient,
os.
Oui, les os et puis le lichen, le lierre. Oui. On a presque dire l'enroulement du lierre et du lichen autour de l'os, quoi. Mmh. Autour de l'os qui est la pierre. D'une certaine façon.
C'est la capacité que tu as de persister, c'est-à-dire en dessous du quotidien où tout se passe et puis tout se barre, tout s'oublie, il va rester des choses, des expériences qui sont plus importantes, plus fondamentales que d'autres, qui remuent plus de choses en toi. Et c'est à partir de celles-là, de ces expériences-là, que tu vas pouvoir écrire ou inscrire quelque chose qui va rester. Tu vois, dans l'espèce de flot d'éléments quotidiens qui pourraient être, par exemple, tout à l'heure, là, en attendant là, le début, là, je marchais devant le petit palais avec la neige. Là. Et le à chaque pas dans l'épaisseur de la neige, là, il y a quelque chose. Là. Il y a quelque chose. Alors, bon, ça, c'est pas écrit, si tu veux, mais il y a quelque chose. Alors ça je le sais, je sais pas, peut-être que je l'écrirai ce soir, demain, ou que je l'oublierai, mais en tout cas au niveau de l'expérience sensible, il y avait quelque chose, si tu veux, de profond, enfin d'important.
comme le petit bruit du gravier qui revenait sous une autre forme.
Exactement. Ouais. Et ça, c'est le gravier que j'ai au fond du jardin. Tu vois, des trucs qui, à un moment, là, on est sur des sensations. Mais ou marcher sur la plage, par exemple, marcher dans du sable, avec les pas qui sont à la fois assurés, inassurés, ralentis par le sable. Enfin bon, c'est des choses à partir desquelles on ne sait pas quand, on ne sait pas pourquoi, mais à un moment, ça va déboîter en mots et ça va t'amener quelque part.
Du point de vue de l'expérience sensible, pour vous, il n'y a finalement aucune différence entre une information entendue à la radio ou ou un événement de votre vie qui est minime, c'est-à-dire on revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure, tout peut rentrer, enfin tout est sujet poétique possible.
Ah oui, absolument, absolument. Il n'y a pas de limite, hein. Ça peut être aussi bien. Et là, on le voit, par exemple, si on prend jour, on peut le voir, c'est-à-dire un deuil familial égal, la guerre israélo-palestinienne. Égale l'éclosion de la glycine, égale, c'est pareil. Ce sont des déclics ou des impacts ou qui vont amener au mot, mais l'impact lui-même peut être très très différent. Alors, ce qu'il y a, c'est bien sûr, par exemple, si on reprend Play, là, on a un impact météorite tellement fort que là, ça va entraîner tout un livre. Mais sinon, la plupart du temps, ça entraîne un poème. Le poème, il va s'écrire, il peut s'écrire vraiment à partir de n'importe quoi. Là, cette histoire de neige, là, tout à l'heure, ça m'a travaillé. C'est cette espèce de crissement. Quand tu as travaillé les chutes de pluie fines, toi.
Hein ? Oui.
En attendant un train. On peut partir de n'importe quoi. Il n'y a pas de sujet poétique. Ça n'existe pas. Il y a des éléments qui vont amener à écrire un poème. C'est très différent. Et ces éléments peuvent être mineurs ou majeurs. Finalement, ça revient au même, puisque c'est un bâti de mots. On obtient un bâti de mots à partir d'une glycine en été ou à partir d'une femme qui se fait sauter avec sa ceinture d'explosifs. C'est la même chose. Ce n'est pas la même chose dans le réel. Mais c'est le trajet d'écriture est le même. C'est pareil. C'est un impact émotionnel qui va être d'abord muet. On n'a rien à dire là-dessus. On absorbe ça. Et dans un deuxième temps, il va y avoir écriture ou pas écriture. Ce qui arrive le plus souvent. Ça fait, une dizaine de mois que je n'ai pas écrit de poème. Et pourtant, des impacts émotionnels, il y en a eu plein. Donc, on ne maîtrise pas vraiment non plus le processus, quoi. Hein, on peut pas, je sais, par exemple, que ma glycine fleurira du côté d'avril. Bon, ça, je peux en être sûr. Je ne peux pas être sûr que ma glycine produira un poème.
Il y a aussi
mais c'est simple, hein, la vie. C'est simple.
Il y a aussi un travail de creusement, quand même, qui s'impose. Tu parles de creuser dans le cliché. À un moment, tu dis creuser dans le cliché comme dans une dent,
oui.
Jusqu'à ce que ça fasse mal. Je crois que c'est à la page.
Oui. Oui, oui.
Donc, il y a une prise en charge de l'ordinaire, il y a un travail, il y a une mise au travail.
Mais qui revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur écriture grise. Hein. C'est-à-dire, tu sais, Baudelaire disait dans les... c'est dans les fusées ou dans Mon cœur mis à nu, mais c'est dans les journaux intimes. Il disait « Mon rêve, écrire un dicton de concierge. » Tu vois ? Et il y a de ça, c'est-à-dire arriver au ras de vivre, ben, ça va t'amener au dicton de concierge. Hein.
Créer un poncif, là, le génie.
Tout à fait.
Oui.
Ou bien creuser le poncif qui est déjà là, de manière à le détourner, tout en le laissant, si tu veux, affleurer. Mmh. Tu vois ? Bon. Mais on est vraiment, enfin chez moi, hein, dans mon petit travail, hein, on est dans du commun. On n'est pas dans de l'extraordinaire. Donc mon matériau de base et mon objectif final, il est ça. Il est le commun. Il y est qu'est-ce qu'on a en commun. En quoi est-ce qu'on est humain, tous en tant qu'on est ici. C'est ça mon espace, si tu veux.
c'est pas de faire quelque chose d'extraordinaire, qu'aurait jamais été vu, qu'aurait jamais été ressenti, qui ferait rêver tout le monde. C'est pas ça. Je laisse ça à Sarko. Hein.
Bon, je dis dans Pour un Malherbe que, enfin, il rappelle la nature de l'artiste comme celle de quelqu'un dont les intuitions dominent l'intellect. Et il ajoute quelqu'un pour qui tout commence par une sensation, par une émotion. Ouais. Et de ton côté, volontiers, tu rappelles, tu le disais tout à l'heure avec beaucoup de modestie, tu n'es pas un théoricien, tu n'es pas un conceptuel. Tu dis ceci, quand j'écris, j'ai besoin que ce soit comme ça, sans savoir véritablement ce que je veux ou ce que je vise. Donc, une sorte d'avancée tâtonnante, comme ça, dans l'opaque... Dans le, ce que j'appelle le là, hein, l'exister, le plus quotidien. Et...
Oui, ça, je maintiens. La seule chose, c'est que j'aurais du mal à l'expliquer. Parce qu'expliquer l'intuition, c'est pas simple. Je le maintiens, ça. C'est-à-dire, j'ai un... comment dire, là, je suis tout à fait reverdi, hein, tu vois. Il n'y a rien a priori. Ce qu'on a comme base de départ pour un poème, c'est ce qui s'écrit suite à, on y revient, l'impact d'une émotion, une frappe sur le tambour, qu'elle vienne de l'intérieur ou de l'extérieur, ça on s'en fiche, mais qui est cet impact-là. Bon, quelque chose s'écrit. Bon. Et après, mais tu vois, je ne maîtrise pas du tout ça. Hein. Et ensuite, ce que je maîtrise, c'est le travail. Ça oui, ça je sais faire. Mais le départ, le point de départ, non. Et dans le travail, ce qui le guide, c'est effectivement cette intuition, où je dis quelquefois aussi musique mentale ou musique interne, ça revient au même. C'est-à-dire, tu sais, quand tu relis le vers ou là, tu sais, non, tu entends. Ça, non, ça va ou ça va pas. Si ça va pas, bon, bah, tu bouges. Mais c'est intuitif, ça. Mm-hmm. C'est à l'oreille. Et il n'y a pas de règle. Si tu veux, au départ, ni dans ce que doit être le poème, ni dans la manière de le travailler. C'est très, très intuitif et à l'usure, quoi. Le poème m'a à l'usure et je l'ai à l'usure. Les deux.
On va peut-être proposer à la salle, de, si personne le souhaite, de participer à l'échange.
Est-ce que vous pourriez nous parler du travail sur la prise de notes? Parce qu'en fait, je pense au livre Cambouis.
Oui. Sur comment le livre s'est fait?
Ce que j'ai trouvé de très fort, c'est qu'il y avait quelque chose à la fois de très épuré et de très existentiel. De pas conceptualiser, mais de très très profond sur l'aspect humain. Donc, pourquoi ces notes-là et pourquoi d'autres jours des poèmes?
Ouais. Ça donne des livres qui sont différents. Bon, pour les notes, c'est un héritage aussi de Reverdy, ça, hein, le côté notes. Hein. Et c'est une pratique que je fais depuis vraiment très longtemps, qui est la pratique du carnet. Et je pense que toi aussi, tu pratiques comme ça. Hein. Chez moi, c'est le carnet, il sert vraiment à tout, si vous voulez. Il sert à la fois à noter des réflexions, à noter des choses qui arrivent, à de la vie familiale, à l'ébauche d'un poème, le début des poèmes, il est dans les carnets. Hein. Donc ça sert vraiment à tout, c'est une sorte d'accompagnement complet. Hein. Et ensuite, il y a un travail assez, on va pas différent d'ailleurs, pas tellement différent, quand il s'agit d'aller vers le poème ou d'aller vers les notes. Pour les poèmes, je vais reprendre une époque, trier dans les carnets les ébauches qui ont été faites, ensuite travailler ces ébauches-là pendant un temps long, et puis arriver à un livre de poèmes. Pour les notes, je vais travailler un petit peu différemment selon ce qui m'est demandé, c'est-à-dire selon la commande de l'éditeur, si vous voulez. Pour le premier, la Liken, Rehaut avait demandé des notes très fermées sur l'écriture. Donc, j'avais pris au fur et à mesure sur les 5, 10, 15 derniers carnets, ce qui correspondait à ça. Et puis, à ce moment-là, je le mets au propre,
et je le travaille tout comme je travaille les poèmes, c'est-à-dire à ce moment-là on lisse tout ce qui est écriture, on travaille l'écriture, quoi. Mais au niveau sens, on n'y touche plus. Et puis pour Cambouis, là c'était un peu différent, où François Bon m'avait laissé... Et il était parti de Lichen Lichen quand même, hein. Il m'avait dit « je voudrais en fait un livre un peu comme Lichen Lichen », mais en me laissant plus de marge. Donc là, ouais, même chose, j'ai repris, disons, 2-3 ans de carnet, et en piquant les notes qui me semblaient, comment dire, valables, qui pouvaient passer comme ça directement. Mais en gardant des notes descriptives, des notes... je ne sais pas moi, enfin une variété, une sorte de variété qui était plus grande que dans Lichen Lichen. Et ça, c'est parce que, bon, en quelque sorte, j'avais les mains libres, quoi. Je pouvais faire un petit peu ce que je veux. Mais il s'agit toujours d'aller glaner, en fait, d'aller glaner dans les carnets, quoi. C'est ça le travail. Le boulot, il est vraiment, le boulot primaire, hein, il est vraiment au jour le jour. Bah, d'aligner, je ne sais pas, moi, ça peut être entre 5 et 20 pages tous les jours. Et en allant n'importe où. C'est-à-dire, pour ça, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a rien de préconçu. Je ne me mets jamais à travailler, sauf dans le cas où il s'agit de notes de lecture ou de choses comme ça. Là, c'est un boulot un peu spécial où il faut... on sait, c'est un exercice à part. Et c'est d'ailleurs pour ça que les notes de lecture ne se font pas dans les carnets. Elles se font sur des... Il peut y avoir des notes sur ce que j'ai lu dans les carnets, mais une note de lecture, elle se fait sur une page blanche parce qu'elle a son mode de fonctionnement autonome, quoi. Hein? Mais sinon, c'est une sorte de rassemblement de ce qui peut être intéressant sur une certaine période. Et ça, c'est aussi un mode d'écriture... que j'aime bien parce que c'est un mode d'écriture qui ne me pose pas le problème que j'ai avec la poésie actuellement, c'est-à-dire que rien s'écrit. Avec les notes, il n'y a pas de problème. Mais 5-10 pages par jour, je les fais. Donc, il n'y a pas de difficulté, quoi, dans ce... Enfin, du moins, je n'ai pas de difficulté avec ça, présentement. Il y a toujours des angles d'attaque qui se présentent et qui font que ça donne des notes. Alors que pour la poésie, là, je suis beaucoup plus embêté en ce moment.
Est-ce que ça signifie que tu tiens ton journal ?
C'est pas un journal.
Non,
c'est pas un journal dans la mesure où un journal, normalement, la règle du jeu, c'est de tout dire. De tout dire ou de, si possible, enfin bon. Alors que moi, non. Moi, c'est un journal, c'est un journal, si tu veux, dans la mesure où il y a... Et c'est chaque jour.
C'est à tous les jours.
Ah oui, ça, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais même tard. Mais par contre, il y a énormément de choses qui sont... comment est-ce qu'on va dire ça? Comment on dit ça en psychanalyse Ouais, voilà, qui sont occultées. Et volontairement, tout à fait volontairement. Il n'y a aucune volonté de vérité totale, tu vois. C'est en ce sens-là que ce n'est pas un journal intime.
Non, pas, j'ai journal, pas dit intime, j'ai dit journal tout court.
C'est un truc qui évolue simplement parce que c'est chaque jour. Voilà, donc on peut dire que c'est un journal, si tu veux. Mais c'est pas destiné à être publié, ça. Hein. C'est une sorte de...
De réservoir.
Oui, de masse de trucs écrits, masse de travail.
Parce que ça doit être énorme, quand même.
Bah oui, c'est
gros. Tu as commencé il y a combien de temps ?
Ah oui, c'est gros. Mais, je veux dire, tu n'as peut-être pas besoin de la recette du bœuf carotte de ma grand-mère. Mais moi, elle est dans le journal. Elle est là, tu vois. Donc, c'est pas... Il y a vraiment de tout. Donc, ensuite, le travail, c'est un travail de tri, quoi.
Mais pourquoi écrire cette recette du bœuf carotte?
Parce que c'est intéressant d'avoir ça quelque part, tu vois.
Pourquoi la mettre là?
Parce que soit on m'en a parlé, soit parce que j'ai fait le bœuf carotte selon cette recette-là que j'avais, si tu veux, par ailleurs, dans un autre papier, et puis que ça marchait bien, ou bien que j'ai eu du plaisir, tu vois. Je sais pas, la vie se présente comme ça, ou bien quelqu'un vient sonner, on discute pendant 5 minutes, ça va donner une note. Tu vois, c'est complètement...
C'est quand même attraper du temps, c'est attraper...
T'attrapes du temps qui reste pas, qui n'est pas destiné à rester. La différence peut-être avec les livres, c'est ça. Dans les livres, c'est du temps qui reste. C'est toi qui disais rester tout à l'heure. C'est le temps qui reste. Et si tu prends, par exemple, Pau, Bah, sur un an et demi, bah, il reste peut-être, allez, on va dire une quoi, 20, entre 20 et 30 jours sur un an et demi. Et tous les autres jours, ils sont passés où? Ils ont pourtant été vécus, je les ai vécus. Il s'est passé quelque chose. Bah, ça, c'est dans les carnets. Tu vois? Mais c'est pas destiné à publication, ça. C'est pour moi. C'est du.
Tu voudrais dire qu'il y a deux lignes de temps et d'écriture qui courent en parallèle. Une qui est celle du journal et qui occupe tous les jours avec toutes les choses de la vie, ou presque, sauf celles qui sont occultées. Et puis il y a une autre ligne qui serait celle de l'écriture poétique, mais qui, elle, est beaucoup plus aléatoire.
Oui, si tu veux, elles sont fondues. À l'intérieur du carnet, elles sont fondues. C'est-à-dire tu vas avoir, si tu veux, à un moment, dans le carnet, tel jour, tu vas avoir des notes, puis tout d'un coup, tu vas avoir 5-6 pages qui sont le noyau d'un poème, qui sont le démarrage d'un poème. Tu vois? Puis après, tu vas retourner à des notes qui servent à rien. Et ensuite, le boulot, il va être de reprendre ces ébauches ou ces espèces de matières verbales qui, a priori, sont d'ordre poétique. Bon, là, je les isole, et là, on est parti avec le boulot sur l'ordi qui peut durer un sacré temps, quoi. Mais la matière de base d'un poème, ça, c'est vrai, elle est dans le carnet et elle arrive quand elle veut, mais en très très peu de temps.
Tu vois, ce qui fait la différence aussi, c'est des rythmes. Il y a des amorces de poèmes qui peuvent s'écrire directement ou venir se loger dans les carnets tels quels. Ou est-ce que c'est uniquement un travail a posteriori qui va donner lieu au poème?
Tu peux avoir les deux. Tu peux avoir les deux. C'est-à-dire ce qui est très clair, c'est quand un poème arrive, il est déjà dans sa forme. Il est déjà dans sa, qu'elle soit en prose, que ce soit en vers, il est déjà là. Il est déjà décidé lui-même en tant que poème, si tu veux, quand il arrive dans le carnet. Mmh. Tu vois? Donc après, c'est assez facile. Tu reprends ça, ces pages-là, quoi, et tu regardes si ça tient ou si ça tient pas. Où il y a quand même un déchet, je dirais, de presque un tiers moitié. Toi, le truc qui part à la poubelle parce que c'était pas la peine. C'était une erreur. Bon, mais avec ce qui reste, là, on passe dans le travail, sérieux, long, si tu veux, de laminage. Tu vois ?
Travail qui consiste à resserrer, à éliminer beaucoup, à densifier, enlevé, comme
toujours enlevé, toujours enlevé. Moi, mon boulot de correction, c'est enlevé. Ça, là-dessus.
Oui, vous avez dit tout à l'heure que le poème était dans la zone du partageable. On pourrait le dire de tout art. Est-ce qu'il y a quelque chose justement qui spécifie le poème dans les arts?
Question difficile. Je dirais non. Peut-être que l'art, en général, est de l'ordre du partage de l'humain, sous des formes différentes. Je dirais ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai tendance, non pas à rejeter, mais à dire que ne m'intéresse pas un certain nombre de formes, qu'elles soient poétiques, qu'elles soient musicales, qu'elles soient plastiques, qu'elles soient denses, qu'elles soient... qui ne sont pas pour moi de cet ordre-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est valable, je pense que ce que j'aime dans l'art, c'est ce partage, une forme de partage d'humanité. Hein. Une communauté.
Choisi le poème.
Bah oui, parce que ça, c'est Beckett, hein, bon qu'à ça. Hein. Donc on fait ce qu'on peut. Je ne peux pas m'improviser peintre ou je ne peux pas m'improviser, romancier, essayiste. Donc je fais ce que je peux. J'aurais beaucoup aimé être peintre. C'est le travail plastique, j'aurais beaucoup, beaucoup aimé ça. Mais bon. J'espère que vous êtes aussi dans mes poèmes. Vous voyez, on est ensemble dans les poèmes. Voilà. Non, oui, pour revenir sur l'art, je pense que là je voyais là, l'expo Boltanski en face. Quoi de plus humain que cette expo-là? Donc on n'est pas loin. Hein. Mais il n'y a pas de frontières. Il y a des frontières dans les, dans les formes, dans les matières qu'on travaille. Il n'y a pas tellement peut-être de frontières entre ce que les humains ont à dire en utilisant l'art, que ce soit musique, art plastique, danse, poésie. Le fond, sur le fond, je ne sais pas s'il y a tellement de différences. Il y a des différences de forme.
Dans les langages.
Oui, oui, tout à fait, dans les grammaires qui sont utilisées. Mais pas sur le fond. Je pense que ce sont des expériences humaines qui sont en jeu, quoi. Et elles sont en jeu différemment. Mais quelque part, ça se rejoint. Et nous, récepteurs, on va être plus sensibles à, je ne sais pas moi, tel va être plus sensible au jeu théâtral, tel va être plus sensible à la danse, tel va être plus sensible à la musique, tel va être plus sensible aux arts plastiques, tel à la poésie. C'est égal, ça dépend à la fois de notre culture, de notre passé, de toute notre histoire, à chacun. Hein ? Mais sur le fond, je crois que ça se rejoint.
Mais spécifiquement, le faire poétique, pour reprendre la question du mm-hmm. séminaire, pourquoi faire, porte sur le langage et sur notre capacité articulatoire.
On est d'accord. Hein ? Et même, je dirais aussi, sur amener le langage, pour moi, à sa limite, si tu veux, le pousser jusqu'à sa limite, mm-hmm. au point où ça casse quelquefois, bon, où il y a du risque. On est dans, avec la poésie, ça c'est clair, on est pour moi dans le domaine du risque du langage, on risque du langage.
Et le pousser d'autant plus jusqu'à sa limite que le lecteur est gardé en vue, c'est-à-dire que...
Ah ça, complètement d'accord avec toi aussi, hein.
Non, oui. Mais ça c'est important.
Ah, parce il n'est jamais perdu de vue,
donc tu le pousses jusqu'à sa limite.
Tout à fait.
Aussi dans
d'une... Et avec, c'est-à-dire le risque que je prends ou que je peux prendre, c'est de me demander si le lecteur me suivra, ne me suivra plus. Je peux me poser cette question-là, oui, sur certains poèmes, c'est vrai. Mais pas globalement. C'est-à-dire si tu prends Pau, ça, ce risque-là, je l'ai pris et assumé sur limite lyrique, ça, ok. Mais ça fait un cinquième du livre, ça fait pas tout le livre, tu vois. Ou si je prends Rat, tu avais le poème qui s'intitule Vieux, c'est-à-dire une vingtaine de pages, où c'était comme des retranscriptions de paroles de personnes âgées, tu vois, mais des retranscriptions, là aussi, tu as du risque. Alors, finalement, où il est le poème, si tu te contentes, si tu veux, de retranscrire. En fait, c'est pas aussi simple que ça, ce ne sont pas des retranscriptions, c'est un peu plus compliqué, mais tu vois, tu amènes, si tu veux, le poème à quelque chose où, bon, est-ce que le lecteur va suivre ? Oui, non, mais ça n'est pas tout le livre qui est comme ça, tu vois ? C'est donner une des possibilités, pousser, si tu veux, jusque le curseur, jusque, bon, là où je sais qu'un lecteur va me dire « Non, ça, c'est pas de la poésie. »
J'étais frappé au début. Il a été question de gris, de boue, d'empêchement. Et puis, il a été question, il y a espoir, pas pessimiste, pas nihiliste. Il faut tenir debout. Moi, dans ce que j'ai lu de vos poèmes, ça me semble plutôt du côté, comment dire, de la boue et de tenir. Alors je me demandais, est-ce qu'il y a une évolution ? Enfin, les mots que vous avez employés à propos de plaie, je ne sais pas qu'est-ce qui était le départ, enfin le traumatisme, et puis à la fin renaissance, ça m'a beaucoup frappé. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose à propos de ça ?
Sur plaie, ce que je peux dire, c'est que le livre est un trajet qui va de quelque chose qui abat à une façon de se relever. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Et en ce sens-là, je considère que le livre est optimiste. C'est-à-dire qu'il est possible de ne pas être écrasé par un événement qui, au départ, vous met à bas. Hein ? Et c'est aussi, un trajet dans le temps. Ça travaille dans le temps, c'est-à-dire c'est, on pourrait dire que plaie une sorte de convalescence, quelque chose comme ça si on veut,
hein, mais de convalescence lente, et à la fois dans le rapport à soi et dans le rapport à l'autre. Enfin, tout ce qui est perturbé au départ doit retrouver une sorte d'équilibre à la fin pour qu'on puisse en même temps vivre dans sa peau et vivre avec les autres. Voilà, c'est à peu près ça le trajet du livre. Hein ? Et il est séquencé par des moments où ça va mieux, des moments où ça va moins bien, jusqu'à le dernier poème qui est plutôt un poème où on peut dire maintenant, on tourne la page.
Alors, il y a deux poètes qui ont évoqué le rapport de la narration et de la poésie. Et je crois qu'il y a des exemples. Il y a par exemple Toscane de Vladimir Holan, qui pour moi est un monument de la poésie du XXe siècle. Sur un autre registre, il y a La Chambre d'Attilio Bertolucci, qui est une sorte de roman en vers. Et je me pose une question. Est-ce que dans le poème, la narration reste possible sans le lyrisme ?
Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites la narration est-elle possible sans le lyrisme ? Quel lien au départ établissez-vous entre les deux ?
Je crois que dans la narration, il y a quelque chose qui correspond au lyrisme. Narration et lyrisme, il y a un entraînement dans la narration, il y a quelque chose qui chante aussi, d'une certaine façon.
Une continuité, vous voulez dire, par exemple, la narration supposerait la continuité, et le lyrisme également ? L'amplification, je ne sais pas, j'établis pas spontanément ce lien comme ça. Donc j'ai du mal à répondre pour ma part à votre question. Mais
moi aussi.
Moi, je pense que ce qui me gêne, c'est le côté obligatoire que tu fais. Moi, je dirais le lyrisme peut être lié à la narration. Ça marche. Et même hors poésie, je veux dire, on a des romans où on peut avoir des romans à la limite, sinon entièrement lyriques, mais des passages lyriques dans les romans, tu vois, qui fonctionnent.
Oui, bien sûr.
Donc ça m'irait, mais pas l'obligation de lier les deux. Ça, je suivrais pas là-dessus.
Antoine Lemaz, oui. Il y a une injonction d'emplet, entre guillemets d'ailleurs, qu'on me fiche la paix. Mmh. Je voulais savoir si tu peux essayer de dire si ce « on » est le... Mais non, c'est pas absolument pas drôle. Ce
non,
on...
dans le contexte, c'est sûr.
Ce ouais. « on », oui, à qui renvoie-t-il à ce... J'ai perdu d'ailleurs ma question, ça fait une demi-heure que je l'ai en tête, et donc je ne sais plus du tout ce qu'elle voulait dire, mais puisqu'elle te fait sourire, alors tu as peut-être quelque chose à en dire.
Alors, je ferai remarquer que le « qu'on me fiche la paix » qui est la seule apparition d'un « me » dans « plaie » est entre guillemets. C'est donc une citation. Elle n'est donc a priori pas de l'auteur. Mais ceci dit, l'auteur aime bien qu'on lui fiche la paix. Ça, c'est sûr. Voilà.
En tout cas, tu nous vois tous ravis que tu aies accepté qu'on ne te la fiche pas totalement.
On retournerait là sur la question de d'en dehors, c'est-à-dire la difficulté à être au dehors. C'est pas simple. Il y a des moments où on a envie que, à la limite, le dehors n'existe plus, de sorte qu'on puisse refaire des forces en dedans pour à nouveau l'affronter, ce qui est l'enjeu un peu de plaie. Tout le travail dans plaie consiste aussi à refaire figure par rapport au dehors, pouvoir ressortir de chez soi, pouvoir reparler aux autres, hein, pouvoir retrouver une sorte de vie sociale normale. Mais le premier temps de la réaction est plutôt une réaction de repli, de défense. D'où le « qu'on me fiche la paix ». Mais il y a une autre page où il me semble qu'il doit y avoir quelqu'un qui est replié sous la couette alors qu'il fait jour. Hein, c'est pareil, c'est essayer de préserver au maximum, parce que les temps sont durs, préserver au maximum ce qui reste de force, en attendant d'en refaire d'autres.
Mais ne peut-on aussi voir justement cette tension entre ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire ce trop et ce pas assez, c'est-à-dire que tout ce débat au fond n'est pas forcément le tien non plus. Ce « on » n'est-il pas aussi un renvoi direct à ta propre conscience dans l'écriture ?
On revient sur le « on ». Moi, je souhaiterais qu'il soit une sorte de « nous ». Voilà. Hein ? Que le « je » se dilue dans quelque chose qui est le commun. Peut-être qu'il y a même certainement, d'ailleurs... On parlait de Poe tout à l'heure, et je disais qu'il y avait des poèmes qui étaient limites lyriques, de l'infra-poétique, enfin ça. Il y a aussi un ou deux poèmes dans Poe qui vont dans l'autre sens, c'est-à-dire qui vont dans le sens du souvenir personnel de l'atelier de grand-père, qui était menuisier, etc., les odeurs. Là, on est dans du jeu, quoi. Donc, il y a une amplitude... une sorte de souplesse du poème. Il peut aller... c'est aussi pour ça qu'on parlait de risque, tu vois, tout à l'heure. Quand on écrit un poème, on n'est pas sur une autoroute, si vous voulez. On est sur... on ne sait pas où on est. Voilà. Et puis, on voit après où on a été amené et qu'est-ce qu'on peut en faire. Mais ce n'est pas du tout préfiguré ou préformé dès le départ. Mais... je me suis sans doute planté ou cassé la figure, mais c'est pas gênant, j'assume.
J'hésite beaucoup, je suis pas sûr d'arriver à la formuler correctement. Tant pis, puisque finalement le micro est là, j'y vais quand même. Je repartirai, on parlait de Dubouchet tout à l'heure, et je repartirai de ce mot de Dubouchet extraordinairement célèbre, donc on connaît tous. J'écris aussi loin que possible de moi. Prévisible après ce que j'ai dit. Bon, je trouve que tu as merveilleusement parlé avec une très grande modestie d'un moi modeste. J'emploie à dessein deux fois le mot qui, je crois, est central dans ta poésie. Et un jour, il faudra qu'on dise en quoi cette modestie est novatrice, essentielle et au cœur de ton expérience poétique. Donc très, très bêtement et injustement, je voudrais qu'on parle un tout petit peu de l'éloignement maintenant, parce que je crois qu'aussi tu gardes quelque chose du loin à portée de main et à portée de mots. Je crois que ton expérience poétique, au-delà de ce moi modeste, merveilleux, c'est aussi trouver cet éloignement dans l'immédiat. Hein, dans l'immédiat. Je préfère le mot d'immédiat au mot de réel ici. Et donc, ce que j'aurais aimé, mais ce n'est pas une question, c'est que tu nous parles aussi de ce loin, de cet éloignement de toi, de ce moi immodeste ou modeste, qui se situe aussi dans cet éloignement de moi. Peut-être que le « on » vient parler un petit peu pour lui, justement, et donc de la traduction dans le poème de cet éloignement de toi, qui est, je crois, ton inspiration pour ce moi modeste. Voilà, j'avais dit que ça serait très mal articulé, c'est très mal articulé, pardonne-moi.
Ce que je vois dans ce que tu dis, c'est le travail dont tu parlais tout à l'heure de délavement. C'est-à-dire qu'il est... moi, j'aime dire aussi que tout poème est de circonstance. Le poème s'enracine dans vivre, dans ce qui arrive, dans l'événement. Enfin, il est là. Hein. Ensuite, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Et tout le boulot, pour moi, va consister à faire en sorte que ce ne soit plus quelque chose qui puisse être renvoyé à du biographique, on va dire. Donc, il va y avoir un effacement à partir de ce qui a été écrit dans le carnet, un effacement de tout ce qui pourrait trop renvoyer à du particulier. Tu vois ? Mais d'un autre côté, et tu as tout à fait raison, il ne faut pas effacer trop, parce que sinon, on va perdre le côté vivant, vif, sensible qu'il y a au départ. Donc c'est une sorte de travail à... Je dirais... comment dire ? Un travail d'équilibriste, de funambule, entre en dire trop, en dire pas assez. Alors que pour André Dubouchet, là, le truc n'était pas le même, puisque de toute façon, dès le départ, même si dans les carnets, tout un, bon. Mais grosso modo, si tu veux, le travail était déblayé dès le départ, puisque lui n'était pas là, ce qu'il visait, c'est une sorte de... d'écriture poétique du réel, ce qui était possible de saisir du réel. C'était ça, si tu veux, sa question.
Il y a et la mobilette.
Oui, je suis d'accord, la mobilette. La mobilette qui se casse la figure, bien sûr. Bah ouais, je suis d'accord. Mais là, tu es dans les carnets.
Non.
Oh, la mobilette.
Si, si, les rapports avec le Bertin, on retrouve dans les poèmes. Je ne voudrais plus dire les quêtes de mémoire, mais on les retrouve dans le poème.
D'accord.
Bon. Il y a l'accident qui est d'ailleurs très présent dans les poèmes.
Ah oui, oui, ça, je suis complètement d'accord avec le fait d'avoir perdu là, ce qu'il avait sur son porte-bagages. Oui, 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 ça c'est. Mais si tu veux, si on prend l'œuvre poétique, tu es sur quelque chose qui est beaucoup plus délavé que moi. Tu vois, il a été encore plus loin. Mais en ce sens-là, il était reverdien. Il restait, si tu veux, sur l'idée. Tu sais, c'est Reverdy quand il parle du. Non pas du cubisme, mais de la poésie. Enfin, il parle de la poésie et qu'il dit justement qu'il faut virer tout ce qui est circonstance et pour ne garder, si tu veux, que ce qui est éternel. Tu vois ? Bon, ben là, je pense que Dubouchet a été au bout de ça. Si on prend aussi, par exemple, le. Alors c'est pareil, c'est pas, j'allais dire, l'aspect politique, mais il est au même titre que la glycine, quoi, tu vois. Mais il fait irruption dans le poème avec autant de possibilités, autant d'ouverture, si tu veux, que des éléments qui sont beaucoup plus personnels. Par exemple, dans Play, il est complètement absent. Là, on est vraiment sur un trajet qui est individuel. Enfin, c'est un rapport. Moi, lecteur, d'individu à individu. Mais si tu prends dans Jour, tu vas trouver effectivement l'irruption du politique dans Pau aussi. Non, ça, je crains. Enfin, c'est pas que je crains pas. C'est que tu ne sais pas par où en fait va arriver ce qui va déclencher, si tu veux, l'écriture. Hein. Et ça peut venir aussi bien, encore une fois, de quelque chose d'intime que de quelque chose qui est tout à fait extérieur.
Quand vous dites en dire trop, en dire pas assez, moi, quand je vous lis, je l'entends aussi comme il y a reste, c'est le rien, ce qui reste, mais en fait, c'est aussi au seuil de, où ça se rapproche finalement de ce qui pourrait être aussi une grande colère. Et alors, je me disais que peut-être la dimension fortement éthique aussi de votre travail, elle vient de là, on est au peu, au bord du rien, et finalement, ça ne serait pas loin de la colère non plus.
Ouais, y a deux mots que j'aime bien, il y a le mot éthique, on va dire déjà, on en avait parlé aussi de ça. Oui, je pense qu'il y a, une morale, quelque part, même si ce mot-là, on ne l'aime pas, mais il y a quand même une morale qui se dégage de la poésie. Les poètes ont une... Enfin, les poètes, moi j'ai une morale... Ouais, une éthique. Hein. Et puis, l'autre élément que vous soulignez, c'est la colère. Je pense que oui, c'est vrai. Qui tient, là, pour le coup, au dehors. La colère, elle est toujours dirigée vers le dehors. Enfin, pas contre ce qui se passe à l'intérieur. Ce qui se passe à l'intérieur, à la limite, bon, c'est comme ça. Ce sont des choses qui se sont accumulées comme ça. Bon, ok, on peut s'en débrouiller. Par contre, avec le dehors, oui. Oui, ce monde tel qu'il est me met en colère. Oui, tout à fait. Et il ne cesse de le faire, d'ailleurs. Je ne vais pas encore redire. Mais c'est bien là. Voilà. Hein ? Et c'est un monde, enfin un monde, une évolution du monde, une façon de voir aussi l'avenir en ce sens-là encore. Je ne suis pas nihiliste, c'est-à-dire moi ça m'intéresse de savoir comment sera la planète dans 10 ans, 20 ans, 30 ans pour nos enfants, ça m'intéresse. Et là il y a de la colère effectivement, oui, qui vient assez vite. Donc le poème il a aussi apporté ça. C'est compliqué cette affaire. C'est dans Cambouis où plusieurs fois je pose la question de l'engagement qui n'est pas évident parce qu'il y en a eu beaucoup d'engagement. Ça a amené quelquefois à des ratages et à des, comment dire, des dévoiements, on va dire, de la poésie. Donc c'est quelque chose qui a travaillé, oui, parce qu'on ne peut pas ne rien dire, mais en même temps, c'est pas si facile de trouver le moyen de dire, quoi, sur cette question-là. Mais colère, en tout cas, oui, 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 oui. Et encore plus maintenant, quoi. Voilà. Mais je pense que c'est pareil, c'est une colère qui est partagée par le lecteur. C'est-à-dire, je ne suis pas tout seul à être en colère par rapport au monde comme il va. Je pense et j'espère que tous qui êtes ici, vous êtes en colère contre ce monde. Ce monde va mal. Donc il faudrait quand même à la fois le dire et puis essayer de le bouger un peu, si on peut. Autant qu'on peut.
Derrière le mot plaie, il y a évidemment le mot blessure. Il y en aurait d'autres. Angoisse, blocage, qui revient souvent. Mais il y a un autre mot que tu emploies, c'est le mot peur. Oui. Le mot peur. Tu définis même, je crois, les gens qui sont de la peur qui bouge. Comme si c'était le lot commun, le plus petit commun dénominateur entre les êtres. Ce qui est, en fin de compte, le mieux partagé, la peur. Alors, colère et peur s'articulent sans doute d'une certaine façon l'un avec l'autre. Colère contre cette peur, peut-être, tout simplement, ou contre cet étouffement qui induit la peur. Mais...
Je dirais non. Pas... Non, je les séparerais. Je dirais peur et quelque chose dans le... l'ordre du rapport aux autres. C'est-à-dire, les autres me font peur, vous me faites peur. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous avez pris la parole tout à l'heure, vous aviez peut-être un peu peur. C'est de cet ordre-là. Ce n'est pas évident d'être dans un rapport harmonieux à l'autre, à moins d'être, ce que je ne suis pas, je crois, quelqu'un qui domine ce rapport d'entrée, donc il est en position de surplomb par rapport à l'autre, donc il est tranquille, il n'a pas peur. Moi, ce n'est pas ça. Moi, quand je viens, tu vois, comme ici, j'ai peur. Donc, bon, je considère que peut-être qu'il y a, il y a des gens qui n'ont pas peur, on ne va pas en nommer, qui parlent souvent à la télé, mais à part cela, qui n'ont pas peur, ni même de se contredire et de dire autre chose. Et de, bon, et ben les autres, ils ont peur. Prendre la parole, c'est avoir peur. Si je vais parler à mon proviseur de lycée pour lui dire que ça va pas et qu'il faut qu'il change des choses, j'ai peur, tu vois. Alors après, tu peux ramifier ça, tu peux aller chercher, si tu veux, du côté des d'où ça vient, sur pourquoi c'est là. Là, tu vas trouver des angoisses infantiles, tu vas trouver des trucs, tu vas trouver. Mais c'est un travail de lucidité aussi, la poésie. Je veux dire, pourquoi il y a cette réaction enfin chez moi qui est très forte, hein, de difficulté par rapport au dehors et de le considérer toujours comme d'abord agressif, hein, premier truc comme agressif. Faut bien quand même que j'essaye de comprendre. Ça doit bien venir de quelque part, d'expériences que j'ai faites moi antérieurement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'essaye de démêler ça un petit peu, mais ouais, je pense que c'est assez commun. Je ne me sens pas ni déviant, ni un cas exceptionnel à mettre en hôpital psychiatrique parce qu'il a peur des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être que ça, c'est quand même assez... c'est quand même peut-être aussi un des moteurs de la poésie, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir facilement être en rapport avec autrui fait que ça favorise... je dirais un rapport écrit à autrui. Vous voyez ce que c'est... Oui, voilà, merci madame. C'est un peu logique. Et donc, quand je cesserai d'écrire, c'est que j'aurai dominé ma peur et qu'on sera tranquille.
On va peut-être s'arrêter là et puis remercier Antoine et Camille.